out.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour Culture Média et d'être de plus en plus nombreux. Vous, les audiences radio viennent de tomber. Résultat, Culture Média a progressé de 10% sur un an. Merci, merci beaucoup. Et j'en profite pour saluer celles et ceux qu'on n'entend pas au micro et qui font pour l'émission un travail prodigieux chaque jour, dès l'aube. Oui, ça démarre à 6h du mat. Laure Gignès qui programme l'émission, Magali Buteau qui met tout en forme, Nicolas Souvent qui réalise et notre rédac-chef Antoine Janton. Merci à vous les amis. Elle était depuis lundi en tournage d'une émission très ambitieuse dont on vous reparlera évidemment. Quel plaisir de retrouver Hélène Manarino et son portrait inattendu. Ce sera aux alentours de 10h20. Il y aura évidemment Bertrand Chamerois, Eva Rock et le journal des médias de Charles Decan. Notre infomédia va se pencher sur la proposition de loi sécurité globale, loi très décriée, qui a pour but de protéger la police, notamment sur les réseaux sociaux, mais qui est vue dans les médias comme liberticide. Vous entendrez les ministres Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti et nous recevrons Emmanuel Poupart, premier secrétaire général du SNJ. Nos invités ensuite, Bertrand Piccard, l'homme qui a fait le tour du monde en avion électrique solaire. Il sera dans l'émission En Terre Ferme sur Ushuaïa TV, dirigée par Christophe Sommet, qui lui aussi sera avec nous, mais pour parler des océans. Enfin, comme on dit, l'écrivain à succès Michel Bussy pour l'adaptation en bande dessinée de son roman Gravé dans le sable. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Charles Decan.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Place à votre journal des médias, le sommaire du jour.
Le duo day du foot français, un nouveau-né, un plan B, un gros succès et de l'inespéré.
Et puis avant les audiences télé, je voudrais dire un mot des audiences radio que j'ai un peu évoquées. Aujourd'hui est donc sortie la vague septembre-octobre de Médiamétrie. Europe 1 reste stable sur un an. 4,1% en part d'audience, c'est la première rentrée à l'équilibre depuis 6 ans, dans un contexte pourtant difficile pour le média radio, dans son ensemble, puisqu'il y a moins d'auditeurs qu'il y a un an, toute radio confondue. Autre chiffre, encourageant dans cette situation, une forte progression sur les CSP+, plus 15% par rapport à l'an dernier. Et puis nous, on est aussi ravis d'apprendre et de vous apprendre que Culture Média progresse encore, plus 10% sur un an, je l'ai dit, en part d'audience et des quarts d'heure en nette hausse à partir de 9h40. Vous êtes près de 900 000 à nous suivre chaque matin. Merci encore. Continuez à nous écouter et à le faire savoir. On est là pour vous. Maintenant, on passe à la télé. Là, les audiences, c'est tous les jours. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir ?
Eh bien, c'est France 2 qui est en tête avec une fiction inédite, La Maladroite. Le téléfilm avec Isabelle Carré et Émilie Dequesne a fédéré 4 300 000 téléspectateurs pour une part d'audience de 18,3%. Derrière, TF1 et M6 sont au coude à coude, à peine 35 000 téléspectateurs d'écart. C'est TF1 qui est deuxième avec Grey's Anatomy saison 16. La série médicale pointe à 2 900 000 téléspectateurs pour 12,9% de part d'audience. Sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, elle a quand même 3 points d'avance sur M6 à 28%. Et donc, c'est M6 qui est troisième. Avec la suite du meilleur pâtissier saison 9, Julia Vignali et Cyril Lignac et Mercotte ont diverti 2 900 000 téléspectateurs, soit 14% du public.
Culture Média.
Et on commence ce journal des médias avec le Duo Day qui a lieu aujourd'hui.
Pour la cinquième année en France, cette manifestation a pour objectif d'organiser des duos entre une personne handicapée et une personne valide. Et elle s'organise également dans les médias. Hier soir, déjà, pour le tirage du loto sur TF1, Christophe Beaugrand était accompagné de Florence Lemaire, une collaboratrice du groupe FDJ atteinte de surdité profonde. Et ce soir, après le 20h, Evelyne Delia accueillera une deuxième Miss Météo. Elle s'appelle Gwendoline Michenet et elle souffre de la sclérose en plaques. Elle a expliqué à Louise Bernard pourquoi elle avait décidé de participer à cette opération.
J'ai accepté de co-présenter cette météo avec Evelyne Delia pour pouvoir montrer que même en étant handicapée, on peut être debout et avoir un handicap invisible. Je prends toujours l'exemple de la caisse prioritaire où quand on ne se sent pas bien, qu'on a des douleurs dans les jambes ou qu'on est très fatigué, on a besoin de passer sur des caisses prioritaires, mais visuellement, on n'est pas dans un fauteuil, on n'a pas de canne, on n'a pas... Donc c'est difficile de faire accepter à quelqu'un qu'on passe en priorité, même si on a la carte, on nous demande souvent comment vous avez fait pour l'avoir ou combien elle vous a coûté.
Gwendoline Michenet, bénévole à la fondation ARCEP pour l'aide à la recherche sur la sclérose en plaques. Rendez-vous sur le site arcep.org si vous souhaitez faire un don. Alors TF1 n'est pas la seule chaîne à se mobiliser autour du duo Day. Covid oblige, les duos formés chez M6 ne se feront qu'à distance, tandis que sur France Télévisions, Télématin se penche sur la question du handicap toute la semaine. Et l'émission Ça commence aujourd'hui de Faustine Bollard qui sera consacrée ce jeudi. Un jeune journaliste en situation de handicap interviendra également ce soir dans le 20h d'Anne-Sophie Lapix.
Canal+ va-t-il sauver le foot français ?
Le groupe est actuellement en discussion avancée avec la LFP, la Ligue de football professionnel. Selon RMC Sport, Canal+ pourrait racheter tout ou partie des droits de retransmission de la Ligue 1 et de la Ligue 2. C'est Mediapro qui les avait décrochés à prix d'or pour les saisons 2020 à 2024, mais le groupe sino-espagnol a arrêté de payer les échéances.
Mais la LFP est-elle en capacité de revendre ses droits ?
Alors non, c'est pas la LFP qui peut décider. Mediapro reste propriétaire des droits, c'est lui qui devra nouer un accord avec Canal+. Le groupe est dans une situation compliquée parce que s'il accepte de revendre une partie de ses droits, son offre sera mécaniquement moins attrayante et il aura donc plus de mal à recruter des abonnés. Sa chaîne Téléfoot en aurait à l'heure actuelle un peu plus de 600 000, mais lui en faudrait 2,5 millions pour être à l'équilibre.
Et puis un heureux événement dans le journal des médias, la naissance d'un nouveau titre de presse.
Oui, c'est ce jeudi que paraît le premier numéro de S, le magazine de Sophie Davant. Il s'agit d'un bimestriel qui s'adresse aux femmes de plus de 50 ans. On en parlera plus en détail lundi, puisque l'animatrice d'Affaires Conclues sera votre invité, Philippe, dans Culture Média.
Paris réussi pour la première série documentaire de BFM TV.
En moyenne, 1,1 million de téléspectateurs ont suivi Daval la série. Comme son nom l'indique, cette série documentaire en 4 épisodes s'intéressait au meurtre d'Alexia Daval, alors que le procès de son mari Jonathan se tient actuellement à Vesoul. BFM TV a diffusé les deux premiers épisodes lundi et a frôlé le million de téléspectateurs. Mardi soir, ils étaient 200 000 de plus pour le dénouement. Un score impressionnant qui a permis à la chaîne Info de se classer 6e chaîne de France mardi et leader TNT. Mais ce succès public n'a pas empêché les critiques sur le timing de cette diffusion, mais aussi sur le fond et sur la forme de la série.
Et on avait parlé, puisque nous avions reçu Marie Perraube, la journaliste, et Marc-Olivier Fogiel, le patron de BFM TV. Les cinémas français préparent leur réouverture.
Une discussion est en cours avec les pouvoirs publics, c'est ce qu'a assuré hier le président des cinémas Pathé Gaumont, Aurélien Bosc. Du coup, les professionnels se préparent. Les dates du 9 et du 16 décembre circulent, même si de nombreuses inconnues demeurent. Y aura-t-il une jauge maximale ? Un couvre-feu sera-t-il maintenu ? L'intervention d'Emmanuel Macron la semaine prochaine apportera peut-être ses réponses.
Cinéma toujours, je ne sais pas s'il y aura de la neige, mais il y aura bien un nouveau film à Noël.
Oui, Wonder Woman 1984, il sortira en France si les salles rouvrent, on vient d'en parler, il sortira aussi dans d'autres pays. C'est à la fois inespéré et improbable et ça secoue toute l'industrie du cinéma aux États-Unis. Cette suite du carton Wonder Woman était à l'origine attendue dans les salles cet été, mais la situation sanitaire avait convaincu le studio Warner de repousser sa sortie.
Et Charles, pourquoi est-ce que ça secoue Hollywood ?
Parce que Wonder Woman sortira au cinéma et en même temps sur une plateforme de streaming HBO Max. Contrairement au Mulan de Disney, les abonnés au service n'auront même pas à payer un supplément. Le film sera disponible gratuitement. C'est révolutionnaire parce qu'au printemps dernier encore, les exploitants de salles américains s'étaient montrés intransigeants. Quand Universal a voulu sortir le film d'animation Troll 2 en VOD et au cinéma, ils ont purement et simplement refusé de le projeter. Le lobby des exploitants s'est opposé depuis des années à toutes les tentatives de faire évoluer le schéma de sortie des films, mais cette fois, il applaudit à demain.
Alors c'est à n'y rien comprendre, comment ça se fait ?
Les cinémas américains qui restent ouverts sont désespérés. Un seul blockbuster est sorti ces 6 derniers mois, c'est le film Tenet de Christopher Nolan. Faute de films au potentiel fédérateur, les spectateurs désertent les salles sans oublier ceux qui ont peur de s'y rendre. La sortie de Wonder Woman le 25 décembre, même s'il sera disponible sur HBO Max dans le même temps, est donc un joli cadeau de Noël pour eux. Au passage, c'est aussi un très beau produit d'appel pour HBO Max qui risque de faire le plein d'abonnés à la fin de l'année.
L'Eurovision 2021 aura lieu coûte que coûte.
Les organisateurs ont tout prévu pour éviter d'avoir à annuler le concours européen de la chanson, comme ce fut le cas cette année. Pour éviter le pire, les organisateurs ont trouvé une solution de secours. Chaque candidat va enregistrer sa prestation dans son pays d'origine, dans les conditions du direct. C'est cette prestation qui serait diffusée si le représentant d'un pays était confiné. Mais l'objectif est évidemment que tout le monde puisse se rendre à Rotterdam au mois de mai prochain pour se produire en direct. Pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité, les règles seront strictes pour cet enregistrement. L'artiste aura le droit à une heure seulement, 3 prises de sa prestation et l'enregistrement sera surveillé par un membre de l'organisation.
Et on termine ce journal avec une émission très spéciale pour préparer Noël.
Nos notez-le dans vos agendas. Apple TV Plus fêtera Noël dès le 4 décembre. Le service de streaming d'Apple s'est associé à la reine de Noël, Mariah Carey, pour un programme original mélangeant musique, danse et animation, où la diva accueillera une tripotée de guest stars, dont Ariana Grande.
Merci beaucoup, Charles Decan. À demain pour un nouveau journal des médias. Dans un instant, dans notre info média du jour, une proposition de loi contestée, la loi dite de sécurité globale. L'un de ses articles, l'article 24, est très critiqué. On en parle avec Emmanuel Poupard. Il est le premier secrétaire général du SNJ, le syndicat national des journalistes.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Cela fait deux jours maintenant que les députés discutent d'un texte très controversé, la proposition de loi dite de sécurité globale. Plusieurs de ces articles sont critiqués, mais il y en a un qui l'est davantage que les autres, c'est l'article 24. Il propose cet article de créer un nouveau délit, la diffusion avec l'intention de nuire, d'images de force de l'ordre en intervention. Et c'est là le problème, comment définir cette intention de nuire? Les journalistes en premier, mais également des artistes, des avocats et la défenseure des droits s'en inquiète. Ils craignent que ce flou juridique ne nuise finalement à la liberté d'informer. En ligne avec nous, Emmanuel Poupard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le premier secrétaire général du SNJ, le syndicat national des journalistes, principal syndicat donc. Où est-ce que vous travaillez, dans quel média?
Je travaille au Courrier de l'Ouest à Angers, dans le groupe SIPA Ouest France. Merci de vous recevoir ce matin.
Et on vous remercie d'être avec nous en direct. Donc, vous n'êtes pas, vous et votre syndicat, d'accord avec cet article 24, parce qu'il menace, selon vous, la liberté d'informer. Mais il faut rappeler que l'idée de cet article, et plus globalement de la proposition de loi, c'est de protéger les policiers et les gendarmes, tout en garantissant la liberté d'informer. C'est ce que disait le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, hier matin sur Europe 1. On l'écoute.
Je pense que ce texte de loi présenté par le député Fauvergue et la députée Toureau, les députés de La République En Marche, va gêner un certain nombre de personnes qui n'aiment pas la police. Mais je voudrais dire ici, une nouvelle fois, que notre travail, il est de protéger les policiers et les gendarmes, très largement attaqués ces derniers temps. Vous avez vu que leur agression a doublé, il y a plus de 20 policiers qui sont blessés chaque jour en intervention, et en même temps de garantir évidemment la liberté d'informer. Les journalistes pourront toujours filmer, diffuser ces images. Les citoyens qui le souhaitent pourront toujours filmer des interventions de police. Et s'ils voient des choses qui sont contraires, évidemment, à la déontologie, de les adresser au procureur de la République. Pour résumer le texte, notamment cet article 24, filmer, oui, traquer les policiers, non.
Je précise que nous avons essayé de contacter, nous avons contacté Madame la députée, Madame Toureau, elle a refusé de venir parler, elle souhaitait ne pas parler à cette antenne. On a contacté Monsieur Fauvergue et il n'a pas donné suite à notre demande. J'en viens à vous, filmer oui, traquer non, où est le problème selon vous?
Le souci sur l'article 24, là, comme vous l'avez souligné, c'est qu'il y a une intention encore à nouveau délibérée d'entraver quand même la liberté de la presse, même si... Monsieur le ministre Darmanin disait le contraire à votre antenne hier. La volonté est manifeste puisqu'il existe déjà un arsenal juridique qui vise à traquer les personnes qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Alors les forces de l'ordre, c'est normal que l'État, le gouvernement faille en sorte de les protéger, mais encore une fois, l'arsenal juridique existe. Ce qu'on voit arriver, nous, c'est quand même une multiplication depuis un certain nombre d'années de lois tout sécuritaires qui s'empilent des unes au-dessus des autres et qui ne sont pas vraiment suivies des faits. Et là, il y a encore un cran supplémentaire qui est franchi avec véritablement une atteinte vraiment à la liberté de la presse au sens large, à la liberté d'informer et d'être informé. Et aussi, de tout citoyen, il y a les articles 21, 22 et 23 qui empêchent aussi les citoyens d'être un peu les garants de la démocratie aussi, puisqu'ils participent de manière citoyenne à surveiller entre guillemets les agissements d'un service public comme pourrait être la police. Et donc il y a vraiment une entrave très générale aux citoyens et aux droits de l'homme au sens large. Donc on s'en inquiète énormément. Comme vous l'avez signalé, il y a le défenseur des droits de l'homme, le défenseur des droits en France, Claire Hédon, qui s'est offusqué de la disposition. Il y a aussi, et c'est pas rien de le dire, il y a aussi trois rapporteurs spéciaux de l'ONU et des Nations Unies, la communauté internationale des États qui s'est offusquée de cette proposition de loi.
Ouais. On va en parler, je précise, toute petite précision, parce que ça se comprenait peut-être pas tellement dans ma phrase. Alice Thourot, la députée, a refusé de venir, non pas parce qu'elle voulait pas venir, mais parce qu'elle était en séance. Et quant à M. Fauvergue, lui, n'a pas donné suite à notre demande. On va parler, avant de parler de la forme, on va parler du fond. Est-ce que vous êtes d'accord, Emmanuel Poupart, avec le principe déclaré de cette loi, renforcer la protection des membres des forces de l'ordre? Ou est-ce que déjà là, ça pose un problème pour vous?
Oui, ça pose un problème, parce que si la loi, en fait, elle entre en application, elle va déjà, dans un premier temps, monopoliser la parole des policiers et déséquilibrer, finalement, la parole d'autres citoyens ou la parole des images.
Non, mais j'ai mal posé ma question. Je veux dire par là que, selon vous, c'est pas la peine de renforcer la protection des membres des forces de l'ordre.
Non, puisque l'arsenal juridique existe déjà. Il y a vraiment un arsenal juridique qui existe déjà. Et là, on va vraiment déséquilibrer les choses. Donc, c'est pas nécessaire. Il y a un empilement, comme je vous disais tout à l'heure, et c'est vraiment pas nécessaire, non.
Compris. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est très ferme sur le sujet, sur la nécessité de protéger les journalistes. Il l'a dit hier sur Europe 1, l'État ne peut accepter que des membres de ses forces de l'ordre soient menacés sur les réseaux sociaux, et il donne des exemples.
Un gardien de la paix de 26 ans, à Paris, voilà quelques semaines, on a mis en ligne une vidéo, des gens ont mis en ligne une vidéo, en appelant à le reconnaître et à le tabasser. Mmh. Voilà. Est-ce que c'est acceptable? Une policière, voilà, deux mois, on m'a montré les réseaux sociaux, appelée à un viol collectif contre elle si on la recroisait dans la vie civile, par la suite d'une intervention de police. Des gendarmes dont on dit sur les réseaux sociaux, donnez-moi en MP, en message privé, vos demandes, je vous donnerai l'adresse pour lui casser la gueule. C'est ça qui existe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui une jungle. Elles permettent parfois des choses que personne, jamais dans le monde physique, n'accepterait. Et ben moi, je ne veux plus être le ministre de l'Intérieur qui constate qu'il y a des policiers et des gendarmes qui se font agresser lorsqu'ils sont au supermarché avec leur femme ou leur mari, lorsqu'ils vont conduire leurs enfants à l'école, ou lorsqu'ils rentrent chez eux, lorsqu'ils ont quitté l'uniforme. On doit au moins leur garantir cette protection qu'un employeur, c'est-à-dire l'État, doit garantir.
Emmanuel Poupart, on a coupé là le ministre. Emmanuel Poupart, l'appel au viol, l'appel à la violence, c'est indéfendable, non?
Le problème, c'est que ça concerne tout à chacun, ça. C'est pas uniquement les policiers, les gendarmes, les militaires, les forces de l'ordre au sens large. Le harcèlement en ligne, l'appel à la violence, l'appel au terrorisme sur les réseaux sociaux, il concerne tout le monde. Il est en effet globalisé. Comme l'a dit le ministre, on rejoint son point de vue. Les réseaux sociaux, il y a en effet une jungle. C'est pas garanti par la loi de 1881. La liberté d'expression sur les réseaux sociaux n'est pas garantie par un texte. Sur des plateformes qui sont issus du droit américain. Donc, en effet, il faut essayer d'avancer sur le harcèlement en ligne d'un point de vue global, mais ne pas focaliser non plus sur les forces de l'ordre. Il y a aussi des journalistes qui sont harcelés en ligne du cyberharcèlement par des forces de l'ordre. Hein, je dis des forces de l'ordre parce que pas tout le monde. Hein, les forces de l'ordre sont aussi là pour protéger la population. Et donc, il ne faut pas non plus regarder le sujet par le petit bout de la lorgnette. Il faut le globaliser. Il y a une intention également au niveau européen, par le biais du Digital Act, d'essayer d'avancer sur la question du harcèlement en ligne. Bon, ça va être long, on le sait, hein, on le sait. Mais en tout cas, on ne peut pas non plus dire que c'est uniquement les policiers, gendarmes et militaires qui sont cyberharcelés. Il y a aussi une partie de la population, et aussi parmi ces gens-là, il y a aussi des journalistes qui sont cyberharcelés par également des syndicats de policiers.
Emmanuel Poupart avec nous, secrétaire général du SNJ. On va parler également des floutages et on va entendre le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. À tout de suite dans Culture Média.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Avec Emmanuel Poupart, secrétaire général du SNJ, syndicat national des journalistes, nous parlons de cette proposition de loi dite de sécurité globale, dont plusieurs de ses articles sont critiqués, notamment par les médias, notamment l'article 24 qui propose de créer un nouveau délit, la diffusion avec l'intention de nuire d'images des forces de l'ordre en intervention, avec une intention de nuire, une intention malveillante. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a évoqué vendredi dernier le floutage des visages des policiers et des gendarmes quand les images sont filmées en direct, mais l'un des deux rapporteurs du texte, Jean-Michel Fauvergue, le député, a refusé. Ce ne sera pas dans le texte, sauf revirement spectaculaire. Cela devrait vous rassurer, vous réjouir, Emmanuel Poupart.
Écoutez, on verra comment ça va se passer sur le suite des débats. J'ai cru comprendre que l'Assemblée, c'est jusqu'à vendredi. Après, il y a la navette aussi du Sénat. Donc, on verra comment ça va se passer. Mais en tout cas, nous, on veillera à ce que cette proposition ne voit pas le jour. Nous, on est vraiment opposé contre.
Ouais, ce qui frappe dans ces propositions, c'est que la presse n'a pas d'intention malveillante. J'ai jamais vu dans aucun journal des appels à la violence.
Alors là, vous parlez concernant l'histoire de la loi de 1881, c'est ça ?
Non, même sur l'article 24 qui crée ce délit de diffusion avec l'intention de nuire d'images des forces de l'ordre en intervention. J'ai rarement vu un journal qui diffusait des images de policiers avec l'intention de nuire à ces policiers.
Il faut le voir dans le sens inverse. C'est le policier, lui, qui peut considérer qu'à un moment donné, lorsqu'il y a une manifestation ou autre, qui pourrait considérer qu'il a atteint, par exemple, à son image, sa santé physique ou psychique, et de manière préventive, il pourrait finalement arrêter le journaliste, le mettre en garde à vue, confisquer son matériel. Et donc là, ça pose problème quand même, parce que pendant ce temps-là, le journaliste ne fait pas son travail. Et ça risque aussi également d'avoir une forme d'autocensure dans les rédactions. On a poussé les employeurs à essayer de se bouger sur ces questions-là, parce que ça pose vraiment question sur le droit d'informer. Les employeurs ont aussi leur mot à dire sur le sujet.
Je vais essayer de résumer la situation pour les gens qui prennent l'émission en cours de route. C'est qu'on a l'impression qu'on est face à un dilemme avec deux objectifs antinomiques, la totale sécurité des policiers ou alors la liberté d'information.
Oui, alors je serais peut-être pas aussi clivant que ça, mais la liberté d'information est nécessaire, la protection aussi des policiers est nécessaire.
Voilà.
Mais il y a aussi
à quel endroit on place le curseur ? La question, c'est ça. À quel endroit on place le curseur ?
On est d'accord. Après, ceci dit, le ministère de l'Intérieur, les rapporteurs, Fauvergue et Toureau, ne sont jamais tournés vers la profession pour avoir une concertation avec nous. Donc là, on le regrette, puisque, encore une fois, c'est une proposition de loi qui arrive au pas de charge à l'Assemblée nationale et au Sénat, et s'est voté dans la précipitation, avec les dangers que cela représente.
Vous n'avez jamais été consulté, ce que vous venez de dire ?
Jamais. Nous n'avons jamais été consultés.
Vous en parliez, je vais le citer, la défenseur des droits a pris position contre cet article 24, après on va passer à d'autres articles. Elle dit que ce qu'il prévoit cet article n'est pas nécessaire à la protection des policiers et des gendarmes, qu'il porte atteinte de manière disproportionnée à la liberté d'expression et qu'il crée des obstacles au contrôle de leur action. Il y a d'autres articles, vous l'avez évoqué, qui sont l'objet de critiques. L'article 22 précise l'utilisation par les forces de l'ordre de caméras installées sur des drones. L'article 25 qui permettrait, s'il est voté, aux policiers et aux gendarmes de porter leurs armes hors service dans des lieux recevant du public. Est-ce que ces articles vous inquiètent également ?
Oui, ça nous inquiète parce que franchement, on dirait que c'est 1984, c'est directement orwellien. Enfin, on est vraiment parti dans un délire tout sécuritaire et on se demande s'il n'y a pas une volonté globale de surveiller toute la population. Donc oui, c'est inquiétant. C'est vraiment 1984, quoi.
Ouais. Alors, il n'y a pas que la proposition de loi sécurité globale qui inquiète les défenseurs de la liberté de la presse. Il y a également les paroles prononcées par le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. C'était avant-hier devant la commission des lois du Sénat.
J'ai beaucoup travaillé pour tenter d'éradiquer la haine en ligne. La haine en ligne, elle aboutit à l'assassinat du professeur Paty, mais également elle pourrit notre pays, souvent en toute impunité. Et nous avons travaillé de ce point de vue-là, de façon très très précise, pour essayer de réguler au travers de la loi, notamment de 1881, les immixtions de ceux qui ne sont pas journalistes et qui ne méritent pas d'être protégés par cette loi, mais qui viennent au fond s'y lever pour diffuser la haine en ligne et bénéficier des protections qui sont dues aux journalistes et aux organes de presse.
Ces gens qui ne sont pas journalistes et qui viennent se lever dans la loi qui protège les journalistes. Je précise que le son d'Éric Dupond-Moretti n'était pas excellent parce qu'il parlait par visioconférence. Sur le fond, modifier la loi de 1881 pour lutter contre la haine en ligne, contre le terrorisme. Le garde des Sceaux n'a pas donné davantage de précisions. Est-ce que vous en savez plus, Emmanuel Poupart ? Est-ce que vous avez été consulté ?
Alors, pour le coup, on a été consulté par le garde des Sceaux pour cette question-là. L'idée générale, c'est en effet de lutter contre la haine en ligne. Il est évident qu'il y a un déferlement de haine sur les réseaux sociaux et qu'il faut essayer d'y mettre fin. Et c'est extrêmement problématique. Ça, sur le constat, on le partage. Après, le souci, c'est qu'il y a une volonté législative, en tout cas du ministère de la Justice, de toucher à la loi 1881. Et c'est extrêmement dangereux.
Pourquoi ?
Parce que ça intervient en plus. Je fais aussi les questions et les réponses. Ça intervient en plus dans le cadre de cette proposition de loi Fauvergue-Toureau. Donc, il y a un calendrier, un faisceau qui est assez dramatique. Donc, il y a encore un étage supplémentaire. On a l'impression qu'il y a une nouvelle chasse aux journalistes qui s'instaure. Et c'est extrêmement problématique parce que toucher à la loi de 1881, qui a une architecture globale assez équilibrée quand même, qui a été assez toilettée, qui a été revue un certain nombre de reprises, c'est extrêmement dangereux pour alors, la liberté d'informer, certes, mais aussi la liberté d'expression au sens large en France.
Vous parlez de chasse aux journalistes, pensez vraiment que la liberté de la presse est menacée en France ?
Oui, il y a vraiment une... oui, c'est vraiment, vraiment. En tout cas, on a l'impression que c'est ça. Et que la liberté de la presse est au centre d'un certain nombre de... La liberté de la presse et la liberté d'expression au sens large, hein, au centre des foudres de certains du gouvernement. Et ça, c'est pas possible. Et la France ne peut pas céder par rapport à ça. Sinon, d'autres démocraties vont s'engouffrer derrière.
Emmanuel Poupart, on a vu et lu la colère des sociétés, la colère des syndicats de journalistes. On a moins entendu, c'est un euphémisme pour dire pas du tout, les patrons de presse sur ce sujet. Est-ce que vous appelez à une mobilisation des patrons de presse ?
Oui, on appelle à une mobilisation des patrons de presse, mais plus largement les patrons, éditeurs, responsables de chaîne et directeurs de l'information, parce qu'eux aussi sont garantis. Ils sont garants de la ligne éditoriale, certes, de leur chaîne, mais ils sont aussi garants de la liberté d'informer. Donc ils doivent aussi sortir du bois et montrer leur désaccord par rapport à cette proposition de loi, puisque les rédactions, si la proposition de loi passe, les rédactions vont s'auto-censurer. Et il y a un risque, à nouveau, de manière préventive, à ce que des journalistes soient arrêtés.
Nous suivrons évidemment cette affaire. Merci beaucoup Emmanuel Poupart, on va en reparler. Premier secrétaire général du SNJ, merci d'avoir été avec nous en direct dans Culture Média. Dans un instant, la nouvelle émission de Choya TV en terre ferme. On sera avec le directeur du pôle thématique de TF1, Christophe Sommet, qui chapeaute la chaîne Choya TV, et le saventurier Bertrand Piccard, invité de l'émission. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Bertrand Piccard.
Bonjour Philippe Bondel.
Merci d'être avec nous. Vous êtes où Bertrand, à l'instant même ?
Je suis à Lausanne, en Suisse.
Psychiatre.
Pas beaucoup de voyages en ce moment.
On s'en doute, et on va parler justement de voyages. Psychiatre, aventurier, mais surtout homme d'exploit. Vous avez été le premier au monde à faire le tour du monde en ballon et ensuite en avion solaire, Solar Impulse. Vous êtes l'invité de l'émission En Terre Ferme sur Ushuaïa TV. Ce sera le 28 novembre. Ushuaïa TV, dirigé par Christophe Sommet. Bonjour.
Bonjour Philippe Mandel.
Vous êtes le directeur du pôle thématique du groupe TF1, donc le patron de fait. Vous dirigez la chaîne Ushuaïa TV qui célèbre le mois des océans avec une programmation spéciale. On va en reparler. Christophe Sommet, on avait reçu Fanny Agostini au lancement de l'émission. Est-ce que vous pouvez rappeler le concept de En Terre Ferme ?
Le concept, c'est Fanny qui reçoit chaque mois dans un endroit en Auvergne qui est un superbe gîte, un aventurier, un explorateur, quelqu'un de pertinent sur la protection de l'environnement pour partager son engagement et le faire sortir de sa zone de confort et le surprendre.
Ouais. Alors moi, j'ai été surpris par Bertrand Piccard. En écoutant l'émission, évidemment, que j'ai vue, on sait que votre grand-père, c'était le grand professeur Piccard, qui a servi de modèle à Hergé pour son professeur Tournesol dans Tintin. Votre papa, océanographe, a le record de la plongée en profondeur. Ce que j'ignorais, c'est que votre maman était une pionnière du bio, que vous avez des racines très terriennes. Et dans l'émission, vous faites une confidence sur la gastronomie, ou plutôt sur la nourriture de votre enfance.
Moi, ce que j'adorais faire quand j'étais à l'école primaire, c'était quoi, j'avais 7-8 ans, c'était aller nourrir les taureaux de la ferme voisine, d'aller sur la moissonneuse-batteuse pendant les moissons et rentrer à la maison.
Ah ouais,
et je rentrais couvert de poussière de blé.
C'est fou parce qu'on vous connaît pour vos exploits aériens notamment, mais alors pas du tout sous cette facette-là.
Mais j'adore ça. Mais il faut dire que ma mère était pionnière du bio dans les années 60. Elle nous nourrissait en bio. Elle allait chercher le lait encore chaud à la ferme dans un bidon en inox. Ce qui était interdit. Alors ça, j'adorais ça parce que c'était interdit par les centrales laitières.
Pourquoi c'était interdit par les centrales laitières, un bidon en inox ?
C'était interdit d'aller chercher du lait directement dans les fermes parce que ça court-circuitait les filières habituelles sous prétexte que le lait n'avait pas été pasteurisé, stérilisé, etc.
Ouais. Disons, c'est drôle parce que maintenant, c'est la tendance totalement inverse. On pense que c'est le bonheur total que d'aller chercher directement son lait à la ferme.
Ouais, non, mais c'était le bonheur total à l'époque, mais c'était interdit à cause des questions d'hygiène.
J'ai bien compris.
Mais vous savez, mais c'est pour ça que cette émission m'a tellement plu, parce qu'en fait, ça m'a remis dans cette ambiance. C'est vrai que c'est des choses dont je ne parle pas tous les jours, parce que je suis toujours dans la politique, les énergies renouvelables, la technologie, etc. Et puis, en terre ferme, me retrouver, on était les pieds dans la boue, on était sur une calèche à cheval, on était en train de parler de mon enfance à la ferme, c'était génial, j'adorais cette émission.
Et puis on retrouve aux fondamentaux de scientifique Bertrand Piccard, on vous a fait rencontrer ou retrouver un scientifique, il s'appelle François Gemène, il est chercheur, il est membre du GIEC qui s'occupe du climat, et vous qui êtes connu pour votre tour du monde avec un avion électrique Solar Impulse, il vous a apporté un sachet de riz, pour quelle raison? Et là, auditeur, auditrice, écoutez bien, j'imagine que vous n'aviez jamais vu les choses sous cet angle, en tout cas moi, je ne les avais jamais vues.
Je vous amène du riz. Regardez.
Et là, Bertrand ne comprend rien. Mais rien du tout.
Alors, c'est un riz qui pousse à des températures différentes ?
Pas du tout. C'est juste quel est le rapport entre le riz et l'aviation. En fait, les cultures en milieu humide, ça émet du méthane, qui donc a ce pouvoir réchauffant très, très important. Ça représente à peu près 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. L'aviation, à côté, c'est à peu près 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.
1% de moins.
Ce qui veut dire qu'en fait, le riz représente légèrement plus d'émissions de gaz à effet de serre que l'aviation.
Une fois qu'on a dit ça à Bertrand Piccard, au-delà du chiffre, qu'est-ce qu'on en tire?
Mais on en tire que toutes les activités humaines produisent du CO2, polluent et utilisent des ressources. Et qu'on doit être plus efficient partout. À peu près la moitié du riz qui est produit dans le monde est perdue. Par une mauvaise conservation, par du gaspillage alimentaire et des choses comme ça. Et on voit que tout notre mode de consommation est un mode de gaspillage et on devrait avoir beaucoup, beaucoup plus de respect pour ce qu'on utilise, pour ce qu'on extrait, pour ce qu'on produit, pour ce qu'on consomme. Et on doit même avoir du respect pour nos déchets qui peuvent devenir des ressources pour une nouvelle industrie.
Il y a quelque chose de passionnant dans l'émission, vous expliquez la différence entre l'efficience et l'efficacité. Et à ce moment-là de la conversation, après que vous ayez parlé de riz et de transport, Bertrand Piccard vous donnait une info encore plus contre-intuitive, en tout cas qui fait encore davantage réfléchir.
C'est intéressant parce que le digital, c'est à peu près le riz. C'est à peu près le riz comme émission. Et il y a un calcul qui a montré que le streaming vidéo, de vidéos pornographiques et de vidéos de chats mis ensemble, ça équivaut à la moitié des émissions de l'aviation. Alors, on voit bien que ça, c'est quand même pas la plus grande utilité au monde que de regarder des vidéos de sexe et des vidéos de chats.
C'est assez incroyable, vous allez même plus loin en parlant de textile, parce que là encore, les mêmes qui critiquent l'aviation, ils s'habillent. Or, le textile, dites-vous Bertrand Piccard,
c'est 7% des émissions de textile. Ouais. C'est 2,5 fois l'aviation.
Voilà, et les gens sont très contents d'aller faire les soldes et râlent quand ils n'ont pas droit au Black Friday. Vous connaissiez ces chiffres, Christophe Sommet ?
Oui, tout à fait, parce que c'est des chiffres avec lesquels on est familier sur la chaîne, hein, qui est une chaîne pionnière depuis 15 ans sur la protection de la planète. Donc oui, on est malheureusement au fait d'un certain nombre de chiffres qui peuvent être parfois anxiogènes.
C'est une émission média ici dans Culture Média. On va parler de la manière dont vous travaillez dans cette émission et dans Ushuaïa TV. C'est ce masque. Vous restez avec nous, Bertrand Piccard, Christophe Sommet. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Bertrand Piccard, qui a fait le tour de la planète dans un avion électrique et qui est maintenant avec nous en direct. On verra ça. Non pas son tour de la planète, mais avec Fanny Agostini dans l'émission En Terre Ferme, ce sera le 28 novembre. C'est diffusé sur Ushuaïa TV, la chaîne dirigée notamment par Christophe Sommet, qui est dans ce studio. Bertrand Piccard, ici on est une émission média, et j'ai vu dans l'émission que vous êtes venu pour délivrer un message, pas pour simplement répondre à des questions, parce que devant vous, ça se voit à l'image, il y a une feuille avec des notes. Quand vous êtes dans le salon de Fanny Agostini, vous avez une feuille avec des notes, comme si vous aviez un message à délivrer.
Non, alors ce que j'ai amené, c'est la photocopie de l'article que mon grand-père avait écrit en 1942.
Alors autant pour moi.
Sur l'énergie solaire.
Mon il est génial. Ah oui, racontez ça.
Mais vous rendez compte, et je ne savais même pas, mais quand j'ai lancé Solar Impulse, quelqu'un m'a dit, j'ai vu cet article de 1942 que votre grand-père a écrit sur l'énergie solaire et le besoin de remplacer le pétrole par des énergies propres. Et j'en ai forcément amené un exemplaire à Fanny Agostini pour l'émission.
Christophe Sommet, on va parler de la programmation spéciale du mois des océans sur Ushuaïa TV que j'ai un peu évoqué. Qu'est-ce qu'on va voir? Ça va être incarné par qui d'abord?
Alors ça, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement tout au long de l'année, des cycles thématiques. Donc en novembre, nous sommes sur la protection des océans. C'est incarné par Estelle Lefébure. C'est 6 soirées thématiques avec beaucoup de documentaires, beaucoup d'inédits. Vous retrouverez par exemple ce soir à 22h20 Bichente Lizarazu dans Mahomana, où il va plonger avec les requins en Polynésie. On retrouvera ce week-end la quête du sauvage avec le champion d'apnée Morgan Bourkis. Mardi prochain, une soirée un petit peu plus scientifique avec les scientifiques de Under the Pole, une soirée
pêche durable. Qu'est-ce que c'est Under the Pole ?
Under the Pole, c'est un couple qui parcourt la planète pour faire des prélèvements, pour nous apporter un éclairage un peu scientifique sur l'océan, la nécessaire obligation de protéger. Mm-hmm. Là, documentaire inédit à 20h45, ça s'appelle On a dormi sous la mer, ouais. Où ils ont installé à Mouréa une capsule dans laquelle ils ont passé un certain nombre d'heures, de jours, pour faire des prélèvements et nous apprendre des choses sur la biodiversité.
Vous dites que c'est un programme inédit, mais la capsule sous-marine elle-même est inédite. C'est avec quels moyens ?
Moyens techniques ?
Les moyens financiers. Ah. Je veux dire, quels sont les moyens ? Parce que c'est des programmes très ambitieux. Et Ushuaïa TV, c'est une chaîne de niche, c'est pas vous faire injure que dire ça. Oui. Comment vous en sortez ? C'est quoi votre modèle économique ?
Alors, écoutez, chaque année, on achète environ 300 heures de programme et on produit 150 heures de production. 50% de ça, c'est des deuxièmes diffusions derrière Arte, France Télé, etc. Mais 50% qui restent des premières diffusions chez nous. On a nos moyens financiers pour participer à ces productions-là.
Est-ce que vous faites des coproductions avec d'autres pays ? Parce que s'il y a quelque chose qui est universel, par exemple, puisqu'on parle de l'océan, c'est bien l'océan, ouais. C'est partout, c'est pas comme des reportages dans la Beauce ou autre région française.
Tout à fait, tout à fait. Alors ça, c'est un bon point, effectivement, maintenant, pour arriver à monter des plans de financement ambitieux, il faut faire des productions avec l'international, donc on bosse avec l'Europe francophone, on peut bosser avec le Canada, voir s'il y a des formats, internationaux, voilà, des versions anglaises qui sont vendues à travers le monde. C'est probablement le cas de ce documentaire-là.
Et ça aide d'être épaulé, voire chapeauté par TF1, ou est-ce que c'est deux choses totalement différentes et que vous êtes, comme on dit, dans votre propre couloir ?
On est dans notre couloir, mais avec des passerelles quand même par rapport au groupe TF1, et notamment avec la rediffusion de toute la collection des Ushuaïa Nature, qu'on peut retrouver tous les jours à 13h45 sur Ushuaïa TV, qui reste une des audiences les plus fortes de la chaîne encore aujourd'hui. Mais on a notre vie aussi, je dirais, de manière autonome, même s'il y a des passerelles, voilà, de soutien, et notamment avec de la promotion qui peut se faire sur l'antenne de TF1 ou de l'éditorial. On a eu par exemple Estelle Lefébure qui a été invitée par Nikos Aliagas dans 50 Minutes Inside la semaine dernière pour parler notamment du mois des océans.
Bertrand Piccard, c'est très important les médias, notamment dans pour votre fondation Solar Impulse. Vous aimeriez avoir une émission télé à vous ?
Oui, je dirais maintenant oui. Parce que maintenant, ce que je vois, c'est qu'il y a énormément de solutions qui donnent beaucoup d'espoir dans le monde pour pouvoir protéger la planète, protéger l'humanité, tout en protégeant l'économie et la création d'emplois également. Ouais. Je pense que ce serait passionnant de pouvoir montrer tout ce qui existe, faire entrer le public dans cette dynamique de changement positif qui nous sortirait de cette torpeur, ce pessimisme ambiant où on se dit que tout est fichu parce qu'on n'a simplement pas accès à tout ce qui existe.
Si vous m'avez répondu maintenant oui, c'est qu'avant vous disiez non tout le temps, et Christophe Sommet a beaucoup souri. Enfin, j'ai vu son visage s'est illuminé quand vous avez dit oui, j'aimerais bien avoir une émission de télé. Vous aimeriez faire travailler Bertrand Piccard ?
Alors, avec Bertrand, on se connaît depuis un petit moment. On a notamment fait déjà un doc sur lui au moment du Solar Impulse.
Ouais, non, mais plus qu'un doc.
Voilà, alors on en a déjà parlé. Il y avait des projets de faire une petite série autour du travail fabuleux qu'il fait de répertorier les initiatives positives dans le monde. Ouais. Il y a probablement des choses à faire, oui.
Ouais, mais ça s'est pas fait.
Très volontiers. Alors, on se rappellera de cette émission de Philippe Vindel comme la
pierre fondatrice.
Premier élan, la pierre fondatrice de notre collaboration, Christophe. Magnifique.
Avec plaisir. Magnifique moment de radio. Je m'y attendais pas du tout en écrivant cette question ce matin. Christophe Sommet, sur quoi vous travaillez en ce moment ? Qu'est-ce qui est en route et qu'on verra en janvier ou au printemps sur Ushuaïa TV ?
Alors, écoutez, pour succéder à Bertrand, nous aurons le prince Albert de Monaco. Monaco. Voilà, là aussi, avec une super programmation et un mois consacré à l'aventure, à l'exploration avec Denis Brognard en janvier, et un mois de l'Afrique en mai, par exemple, avec un très beau doc sur Laurent Baheu, photographe animalier noir et blanc. Une grosse production, bonne pioche.
Merci beaucoup, Christophe Sommet. Merci, Bertrand Piccard. Je rappelle, la chaîne Ushuaïa célèbre le mois des océans, programmation spéciale. Il y a notamment l'intervention de Bertrand Piccard dans l'émission En Terre Ferme le 28 novembre, avant qu'il ait son émission à lui, grâce à Christophe Sommet, grâce à Culture Média sur Europe 1. L'émission continue. Merci Bertrand, salut Lausanne. L'émission Média continue après le rappel des titres. On va recevoir Bertrand Chameroy pour son écran de veille avec un concours fascinant. Eva Rock pour son zapping du lendemain et un documentaire sur le médecin des cas désespérés. Notre invité, c'est l'un des écrivains les plus lus en France, Michel Bussy. Il adapte en bande dessinée son roman Gravé dans le sable. Et puis dans Les Indispensables, une série sur des gangsters et le grand retour de Spider-Man en jeu vidéo. Enfin, le nouveau Spider-Man, à tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.